Bonjour Sébastien Vincini, vous êtes le maire PS de Sainte-Gabelle en Haute-Garonne. Vous êtes signataire d'une tribune intitulée « Pour nous, c'est Anne Hidalgo ». Vous êtes donc fervent soutien de la maire de Paris. Merci d'être avec nous dans Europe Midi en ce dimanche. Sébastien Vincini, quand elle passe le périphérique parisien, Anne Hidalgo, elle incarne déjà quelque chose où il faut tout construire?
Elle incarne déjà l'image de la France. Vous savez, quand elle est allée à Tokyo et qu'elle a porté le drapeau des Jeux Olympiques, personne ne s'est dit c'est la maire de Paris. Tout le monde a dit c'est aussi l'image de la France. Je crois que c'est aussi une fierté. Moi, je suis toujours surpris par ces remarques-là. Je m'interroge si c'est pas finalement une vision très francilienne.
Oui, c'est des
Nous,
remarques très
on voit
parisiennes.
La maire de Paris, mais on voit aussi l'image de la France.
La multiplication des candidatures à gauche, ce n'est pas un danger justement pour elle? Je pense à Arnaud Montebourg et au prochain candidat des Verts par exemple.
On est à 7 mois de l'échéance. Je crois que la campagne maintenant a démarré officiellement aujourd'hui. On attendait cette candidature d'Anne Hidalgo. C'est un soulagement, une fierté. Je crois que même c'est accueilli avec enthousiasme. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone depuis ce matin. Maintenant, il va falloir aller convaincre les Françaises, les Français, et une élection présidentielle, on le sait, elle se cristallise autour du mois de février, au mois de mars, nous en sommes encore très loin, donc d'ici là, on arrivera à convaincre et à rassembler. Elle a démontré à Paris, elle a su rassembler, elle saura rassembler aussi les Françaises et les Français de gauche.
Sébastien Vincini, elle dit vouloir offrir un avenir à tous nos enfants, bâtir une France beaucoup plus juste. Elle s'attaque à la famille, aux enfants aujourd'hui. Pour vous, c'est un axe de campagne important, la famille, l'enfance, les enfants?
Oui, je crois qu'avec ce que nous avons traversé là depuis de nombreuses années, à la fois les incertitudes des lendemains liées à la crise du changement climatique, mais aussi ce que nous avons traversé avec la crise sanitaire, je crois que c'est un vrai message d'espoir pour la jeunesse. Aujourd'hui, on le voit bien, la peur du lendemain nourrit le repli sur soi, la montée du complotisme, vraiment la peur même du progrès. Je crois que dans sa déclaration aujourd'hui de Anne Hidalgo, c'est très fort le message sur l'éducation, sur les enfants, sur la nécessité de partager le progrès. Oui, c'est un vrai message d'espoir et je crois que ça sera un des axes déterminants de la future campagne présidentielle.
Sébastien Vincini, parmi ses annonces il y a maintenant quelques jours et à lire dans son livre prochainement qui sort le 15 septembre, elle dit vouloir le doublement des salaires pour les personnels en lien direct avec les enfants, donc bien sûr les professeurs. On a posé la question à Stéphane Troussel, qui est son porte-parole. Pourquoi cette annonce? On va l'écouter ensemble et vous allez pouvoir réagir dans quelques instants.
Année après année, il y a une baisse continue du nombre de candidats au concours de professeurs. Et donc, il est urgent, dans le quinquennat qui vient, de revaloriser ce métier, de revaloriser les salaires, de revaloriser leur formation. Pour affronter la grande difficulté scolaire, eh bien, il faut avoir des professeurs expérimentés, qui restent longtemps, qui s'engagent. Et oui, pour ça, ça nécessite de revaloriser leur métier, leur carrière et leur salaire. C'est une manière de dire, nous replaçons l'école au cœur de la promesse républicaine. Il s'agit d'ouvrir une perspective, d'ouvrir un chemin. Donc oui, il va falloir faire ce choix-là au cours du prochain quinquennat.
Stéphane Troussel, le porte-parole de Anne Hidalgo. Sébastien Vincini, on vous retrouve. Doubler les salaires, c'est bien, tout le monde le voudrait, tout le monde le veut d'ailleurs, mais ça coûte beaucoup d'argent. Stéphane Troussel ne nous répond pas. Comment on finance tout ça?
Moi, je crois que d'abord, Anne Hidalgo, en plaçant ce sujet de l'éducation et de remettre l'éducation et finalement la valorisation de celles et ceux qui nous transmettent, nos professeurs, nos instituteurs, je crois qu'Anne Hidalgo veut adresser un message très clair à des gens comme moi. Moi, comme elle, je suis un fils d'ouvrier, petit-fils d'immigré.
Oui. Mais avec quel argent?
C'est par l'école de la République qu'on est arrivé
là. Avec quel argent, Sébastien Vincini? Quel argent?
Elle n'est pas héritière de la place qu'elle a eue aujourd'hui. C'est le travail, c'est la place du travail, l'école de la République qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et je crois que on le voit bien, l'école républicaine a été malmenée depuis des années.
Oui.
Aujourd'hui, il y a
une
nécessité,
constat, Sébastien
et je crois que l'État peut le faire, reprioriser. À un moment donné, on a la capacité à la fois de rééquilibrer les prélèvements entre le travail et le capital. Oui. Aujourd'hui, c'est complètement déséquilibré.
D'accord.
On a supprimé l'ISF, on a créé la flat tax, on a supprimé la flat tax. Bref, Il
Donc en
y a
payant
une
plus d'impôts.
nécessité aujourd'hui de rééquilibrer et en mettant la priorité sur l'éducation à travers les financements publics, je crois que c'est un beau signal envoyé à la jeunesse de ce pays.
Voilà, et on verra donc surtout comment finance Anne Hidalgo cette mesure qui est bien sûr attendue par bon nombre de professeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien Vincini, maire PS de Sainte-Gabelle en Haute-Garonne, dans Europe Midi. Autre moment politique de la journée, c'est la rentrée de Marine Le Pen. Discours ce matin de la candidate à la présidentielle devant ses équipes et ses militants avant de confier le parti à Jordan Bardella pendant la campagne. Bonjour Stéphane Burga.
Bonjour, bonjour à tous.
On vous retrouve sur place pour Europe 1. Marine Le Pen met en avant un choix de société pour 2022. Le ton est donné, hein, Stéphane.
Oui, elle lance concrètement sa campagne électorale avec, par exemple, ce compte à rebours, ce slogan qui sont affichés sur le fond de la scène, J-210, le temps est venu. Marine Le Pen, eh bien, qui vient de décliner pendant 40 minutes son thème de campagne, liberté, liberté chérie, reprenant un vers, bien sûr, de la Marseillaise en faisant allusion, et c'est le fil rouge de son programme, aux libertés individuelles en danger. Écoutez.
Nous sentons qu'elle est aujourd'hui menacée. Lorsque la censure plane, lorsque ne s'expriment plus que les votes de clientèle, lorsque des grands-parents sont privés du droit de voir leurs enfants et petits-enfants ou des enfants accompagner leurs parents dans leurs derniers instants, lorsque des patients sont refusés à l'entrée des hôpitaux faute de vaccination, lorsque des vaccinations sont effectuées sur des ados malgré l'opposition des parents, si samedi, après samedi, des centaines de milliers de personnes scandent le mot « liberté », c'est qu'il existe un malaise qu'il faut entendre.
Voilà Marine Le Pen qui aligne ainsi ses propositions sur la liberté de circuler, notamment avec la privatisation des autoroutes ou encore le contrôle des prix des carburants. La candidate qui promet un grand référendum sur l'immigration et une lutte contre ce qu'elle appelle une talibanisation des quartiers sensibles. Et puis enfin, vous le parliez, elle vient de laisser les clés officiellement du parti à Jordan Bardella afin de mener, eh bien, une campagne de rassemblement au-delà de la logique et des contraintes des partis.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Burga pour Europe 1 en direct de Fréjus. Dans le Var. Cette candidature, on en parle avec notre invité qui nous a rejoint en studio. Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste de l'extrême droite. Je vais aller droit au but. Est-ce qu'elle est présidentiable? Est-ce qu'elle est même crédible, Marine Le Pen, après ce discours?
Elle est d'abord présidentiable dans les sondages. Entre 44 et 46% des intentions de vote, c'est tout de même entre 12 et 13 points de mieux qu'en 2017. Pour autant, il y manque encore le petit delta qui fait passer de 46 à 50% des voix plus une. Donc c'est toujours le même problème. Marine Le Pen grimpe, non seulement dans les sondages, mais dans les urnes. Mais ça ne fait pas une majorité.
Vous savez comment on appelle ça, Jean-Yves Camus, ça s'appelle le plafond de verre. Est-ce qu'elle a atteint un plafond de verre?
On a dit plusieurs fois qu'elle avait atteint un plafond de verre. Dans un premier temps, on disait qu'elle n'atteindra jamais 30%. En 2017, elle a fait 33%. Ensuite, on a dit très compliqué d'atteindre 40%. Elle dépasse aujourd'hui, dans tous les sondages, les 40%. La question, ce n'est pas le plafond de verre. Parce que même si le plafond de verre se situe à 48%, ça ne fait pas une victoire.
Bien sûr.
Or, c'est quelque chose qui désespère, à juste titre, une partie des militants, ceux que Marine Le Pen a salués pour leur abnégation et leur engagement de longue date, qui, passez-moi l'expression, rament pour certains d'entre eux depuis 20 ans. 30 ans, rencontre parfois des succès locaux, mais n'arrive pas à décrocher la tamale.
Jean-Yves Camus, on le voit dans la presse ce matin, elle est quand même encore une fois très rassembleuse sur les sujets de l'immigration, sur les sujets de sécurité, ce sont les thèmes centraux de la présidentielle qui se dessinent. C'est important pour sa dynamique d'être au top sur ces thèmes, ces sujets centraux qui font le succès de Marine Le Pen et même de son père avant, depuis maintenant des années.
Ça reste effectivement le cœur du programme. L'immigration, l'identité, la sécurité, l'ensemble des sujets régaliens sur lesquels, d'une part, le président de la République est jugé faible, et les Républicains, pour l'instant, en mal d'incarnation, puisque la chance de Marine Le Pen, c'est de commencer à faire campagne alors que LR n'a pas encore de candidat désigné. Pour autant, il va y avoir un caillou dans la chaussure, d'ailleurs il est déjà présent, c'est l'éventuelle candidature d'Éric Zemmour.
Eh bien, on y vient dans quelques instants. D'abord, on a posé une question centrale ce matin à l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, c'était Bernard-Henri Lévy. Vous savez, on dit souvent l'extrême droite n'existe pas, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Question à Bernard-Henri Lévy, c'est quoi l'extrême droite? On en parle avec vous dans quelques instants et puis on parlera également de Éric Zemmour. Bernard-Henri Lévy.
Moi, je suis persuadé que ce soit Zemmour ou que ce soit Le Pen, et pour moi, c'est la même chose.
Donc, vous les classez dans l'extrême droite, les deux?
Oui, je les classe dans l'extrême droite.
C'est quoi l'extrême droite pour vous? C'est quoi l'extrême droite? Comment est-ce que vous définiriez l'extrême droite?
Le prétendu amour d'une nation qui ne se définit que par l'exclusion, que par le ressentiment, que par la haine. Voilà. Et le patriotisme, c'est l'amour de son pays. C'est Romain Gary, je crois, qui disait ça. Et le nationalisme, disait-il, c'est la haine des autres. Voilà, ben, c'est un peu ça l'extrême droite.
Jean-Yves Camus, est-ce que l'extrême droite existe tout simplement? C'est la question que je vous pose ce midi.
C'est une notion qui, scientifiquement, en sciences politiques, est de moins en moins pertinente. Parce qu'il existe aujourd'hui des formations de droite conservatrices qui ont muté et qui, on le voit en Pologne et en Hongrie, c'est important puisque le pape François aujourd'hui a vu Viktor Orban, ne sont pas des extrêmes droites au sens traditionnel du terme, ne sont pas des résidus de fascisme, mais ne sont plus non plus des conservatismes traditionnels.
Avant de parler de Éric Zemmour dans quelques instants, juste la dédiabolisation du Rassemblement National qui a été amorcée par Marine Le Pen, est-ce que finalement ça n'a pas été un peu trop loin et est-ce que Marine Le Pen aujourd'hui n'est pas devenue paradoxalement un peu trop lisse?
Et si on faisait le raisonnement à contrario, c'est-à-dire lorsque le Rassemblement national, à l'époque Front National, n'était pas dédiabolisé, combien faisait-il? Il faisait 20%.
Beaucoup moins.
Voilà. Donc, mathématiquement, Marine Le Pen a eu raison. Elle ne peut plus revenir en arrière, parce que si elle revenait en arrière, ce serait désavouer sa propre politique, sa propre politique depuis maintenant 10 ans. Donc c'est un chemin qui est engagé, qui vise à adoucir une image qui est perçue par les Français comme étant toujours extrêmement clivante. Marine Le Pen est vue par les Français comme quelqu'un qui a des convictions, mais comme quelqu'un qui manque de force de rassemblement et qui fait peur.
Alors justement, Bernard-Henri Lévy en parlait du cas Éric Zemmour. Éric Zemmour qui n'est pas encore candidat, on le rappelle bien sûr, parce que tout le monde fait comme s'il était candidat, mais il n'est pas encore candidat, en tout cas officiellement. S'il se présentait dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ça pourrait tout faire basculer pour Marine Le Pen ?
Si Éric Zemmour se présente, ça force Marine Le Pen, qui pour l'instant est dans une campagne de second tour et un match établi avec Emmanuel Macron, à faire beaucoup plus campagne sur le premier tour pour trouver sa différence avec Éric Zemmour, qui va aller sur ses terres, mais aussi sur celle de
l'air. Il prend des voix partout, hein, Éric Zemmour.
Il prend des voix partout. Il prend des voix partout, notamment chez les anciens électeurs de François Fillon. Donc ce sera un exercice compliqué. Moi, je pense que pour l'instant, Marine Le Pen a un avantage, c'est qu'elle n'est pas aussi radicale qu'Éric Zemmour sur les sujets identitaires et migratoires. Mais Éric Zemmour va lui passer, s'il se décide, du stade, j'allais dire, de l'imprécation au stade de la proposition, parce qu'il est attendu sur ce qu'il ferait s'il était assis dans le fauteuil du président de la République. Il va cesser d'être polémiste, là.
Eh bien, on verra dans les prochaines heures ou dans les prochains jours si Éric Zemmour est candidat. Merci, Jean-Yves Camus, d'être venu dans le studio d'Europe 1, dans Europe 1 Midi, politologue et spécialiste de l'extrême droite. Merci à vous. À suivre dans quelques instants, la troisième dose de vaccin pour les résidents des EHPAD. On ira dans un EHPAD. Et puis la grande finale de l'US Open à suivre ce soir sur Europe 1. On revient dans quelques instants. Il est midi 47.